un temps de prière, voilà, que chacun puisse s'exprimer. On n'est pas nombreux ce matin, mais juste remercier le, dire merci à Dieu. C'est bien de le faire à titre personnel, hein, mais je pense que la Bible nous enseigne aussi à le faire de manière collective, à plusieurs reprises, donc qu'on puisse prendre un temps ce matin pour dire merci à notre Dieu, pour qui il est, pour ce qu'il fait pour nous. Voilà, puis ensuite on ouvrira la parole dans le livre de Jonas. Que chacun se sente libre de rendre grâce, et puis je conclurai ce temps-là.
Merci Seigneur, ce matin c'est encore un jour de grâce, un jour où nous exposons à la puissance de ta parole, la puissance de ton sang versé, la puissance du Saint-Esprit. Merci pour l'œuvre de guérison, de transformation, de consolation, de régénération qui se trouve, Seigneur, en toi. Bien, nous sommes heureux de ce que tu sois révélé à nous. Merci Seigneur de pouvoir encore avoir cette conscience que sans toi nous ne pouvons rien faire et qu'avec toi nous ferons des exploits. Seigneur, bénis ce matin ces enfants, bénis ceux qui leur enseignent ta parole, que Seigneur ils puissent encore avoir des conversions, que encore Seigneur tu fasses lever parmi ton peuple les hommes et les femmes qui désirent te servir. Payant le prix de la croix et de l'exemple à suivre. Merci Seigneur pour la dignité que tu nous donnes. Merci Seigneur pour l'honneur que tu nous fais de nous appeler tes enfants. Amen.
Amen.
Merci Seigneur parce que tu règnes, tu vois. Et c'est en tant que roi que nous voulons te proclamer ce matin, t'acclamer, tu nous que ce soit la louange de nos cœurs, Seigneur. Nous voulons nous incliner devant toi, parce que c'est toi qui as toute autorité. Et nous voulons être des serviteurs qui te servent avec fidélité, avec amour. Merci pour ta parole, Seigneur. Bénis Florent ce matin de l'enseignement que tu vas nous partager. Que nos cœurs soient attentifs. Que nos cœurs soient bien disposés. Seigneur, merci. Merci surtout pour ce que tu es.
C'est encore un privilège de pouvoir nous approcher de toi ce matin. Des fois, on croit que c'est un dû, mais c'est vraiment une grâce. Merci d'avoir convaincu nos cœurs de croire en toi, chose impossible à notre nature pécheresse et charnelle. Merci parce que tu t'es engagé à faire une œuvre en nous. Tu t'es engagé à nous rendre un jour parfait pour être dans ta gloire. ça me dépasse un peu tout ça, mais ta parole le dit, et tu es un Dieu quand il parle, qui dit toujours la vérité. Merci parce que tu es un Dieu qui nous soutient, qui nous console, qui nous corrige, qui nous éduque. Tu es celui qui est le meilleur des professeurs, le meilleur des pères. Alors merci. Que nous soyons attentifs à ta voix, que nous ayons envie d'être dans ta présence. Aide-nous à ne pas la fuir. Elle est tellement bonne, même dans les moments difficiles. Merci pour tout encore. Dispose mon cœur à prêcher ta parole avec justesse et droiture, et que ton peuple puisse être nourri et repartir avec quelque chose qui peut l'encourager, parce que ça vient de ta parole. Au nom de Christ. Amen.
Cet été, on avait discuté un peu avec Guillaume et Michel sur des prédications qui préfèrent des séries de 3 ou 4. Et puis, Guillaume en a proposé plusieurs. Et puis, il y en a une qui m'a intéressé pour le mois d'août, parce que ça fait longtemps que je n'avais pas prêché dans ce livre, et pourtant, c'est un livre que j'aime beaucoup, qui est très connu par tout le monde. Hein, c'est le livre de Jonas. Hein, même les non-chrétiens connaissent bien l'histoire de Jonas, hein, soit la baleine, soit le gros poisson. Hein, c'est un livre qui est contesté parce que beaucoup pensent que c'est juste une sorte d'allégorie où il n'y a pas une vraie historicité de l'histoire de ce récit et que c'est juste pour enseigner. Mais moi je crois et je prends cette position que c'est une histoire vraie, tout s'est réellement réalisé, même si ça peut nous dépasser, nous sembler incroyable, mais on a un Dieu de toute façon qui est incroyable. Hein. Donc... ce matin, on va commencer le livre de Jonas. On fera chapitre 1 aujourd'hui, chapitre 2 dimanche prochain, chapitre 3 et 4 dans trois semaines. Et on va voir que le livre de Jonas nous présente l'histoire d'un homme qui est appelé par Dieu, hein, vous savez ça, mais qui choisit de prendre dès le départ une direction opposée. Il fait le choix de prendre une direction opposée. Et dans ce livre, il y a une réalité qui nous concerne tous. Il est parfois plus facile... je ne sais pas pour vous, mais il est des fois plus facile de fuir la volonté de Dieu que de lui faire confiance. Je ne sais pas si ça vous arrive. On n'est pas nombreux ce matin, donc il peut y avoir un peu d'interactivité, ce n'est pas gênant du tout. Hein, ça, on sait que Dieu veut ça, parce qu'il s'est écrit, mais notre cœur lutte à lui faire confiance là-dedans. Et on sait aussi que la désobéissance n'est jamais sans conséquence. On sait ces vérités-là, n'est-ce pas ? En tant que chrétien, on les connaît. On sait que la désobéissance affecte notre propre vie, mais aussi ceux de ceux qui nous entourent. Hein. Et on va voir ça avec Jonas ce matin. Et ce qui est beau aussi dans ce livre, c'est que malgré cela, Dieu, il continue, il ne renonce pas à son serviteur. On va voir que Dieu le poursuit dans le but de le ramener dans sa volonté. Et c'est ça qui est beau avec Dieu, même dans nos vies, que même dans nos moments de révolte de notre cœur face à lui, exprimé ou pas exprimé, hein, si on est son enfant, il va nous poursuivre. Et c'est bon signe s'il nous poursuit. C'est bon signe. Et on verra aussi que dans ce livre, que la volonté de Dieu est de sauver des milliers d'âmes en utilisant cet homme qui a un cœur qui veut fuir au chapitre 1. Et c'est ça qui est beau aussi, c'est que Dieu va utiliser même un cœur qui fuit pour le ramener dans le but, peut-être c'est la plus belle de toutes les réveils spirituels de la Bible, hein, je pense. Hein. Il y a des milliers d'âmes qui vont se tourner vers Dieu. Je ne pense pas qu'on ait un plus grand réveil dans la Bible que dans le livre de Jonas. Et ça part au départ avec un homme qui veut fuir à l'opposé, mais que Dieu ramène pour sauver des âmes. C'est incroyable le plan de Dieu. Alors je vous invite à prendre... le chapitre 1, on va lire le chapitre 1. Donc, Jonas, c'est jamais facile à trouver, hein, parce qu'on ne va pas souvent dans les petits prophètes. Donc, déjà, si tu as passé Jérémie, c'est bon signe. Mais si tu es dans les évangiles, c'est plus bon signe. Hein, il faut revenir un peu en arrière. C'est un peu avant Michée. Hein, et si tu tombes un nom que tu n'as peut-être pas toujours vu, qui s'appelle Abdias, c'est juste après. Voilà, c'est des gens qu'on ne connaît pas trop. Et qui sont intéressants à étudier. Alors on va lire Jonas chapitre 1, et puis ensuite on verra verset après verset le texte ce matin. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots. « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. » Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo, il trouva un navire qui allait à Tarsis, il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller vers les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux. Il se leva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage. Les mariniers eurent peur, ils implorèrent chacun leur Dieu, et ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le navire afin de se le rendre plus léger. Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Le pilote s'approcha de lui et lui dit « Pourquoi dors-tu? Lève-toi, invoque ton Dieu. Peut-être voudra-t-il penser à nous et nous ne périrons pas. » Ils se dirent l'un à l'autre « Venez et tirons au sort pour savoir qui nous attire ce malheur. » Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Jonas. Alors ils lui dirent « Dis-nous, qui nous attire ce malheur? Quelles sont tes affaires? Où et d'où viens-tu? Quel est ton pays et de quel peuple es-tu ?» Il leur répondit « Je suis hébreu. » Et je crains l'Éternel, le Dieu des cieux, qui a fait la mer et la terre. Ces hommes eurent une grande frayeur et lui dirent, pourquoi as-tu fait cela? Car ces hommes savaient qu'ils fuyaient loin de la face de l'Éternel, parce qu'il leur avait déclaré. Ils lui dirent, que te ferons-nous pour que la mer se calme envers nous? Car la mer était de plus en plus orageuse. Il leur répondit, prenez-moi et jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous. Car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. Ces hommes ramaient pour gagner la terre, mais ils ne le purent, parce que la mer s'agitait toujours plus contre eux. Alors ils invoquèrent l'Éternel et dirent, « Ô Éternel, ne nous fais pas périr à cause de la vie de cet homme, et ne nous charge pas du sang innocent, car toi, Éternel, tu fais ce que tu veux. » Puis ils prirent Jonas et le jetèrent dans la mer, et la fureur de la mer s'apaisa. Ces hommes furent saisis d'une grande crainte de l'Éternel, et ils offrirent un sacrifice à l'Éternel et firent des vœux. Je ne sais pas si on a la diapo. La révolte d'un cœur à la volonté de Dieu. On appelle ça souvent la fuite dans le chapitre 1. Et ce que j'aimerais qu'on retienne, on va le lire en début de prédication et on le relira à la fin de la prédication. Hop. Voilà. Lorsque Dieu nous demande d'obéir, nous ne devons pas retarder notre réponse. Il est essentiel de faire confiance à Dieu plutôt que de chercher à fuir sa présence et son plan pour notre vie. Et on va essayer de voir tout ça dans notre message ce matin. Lorsque Dieu nous demande d'obéir, nous ne devons pas retarder notre réponse. Il est essentiel de faire confiance à Dieu plutôt que de chercher à fuir sa présence et son plan pour notre vie. La première chose qu'on va voir, c'est que Dieu appelle Jonas. Reprenons le verset 1 et 2. On va y aller tranquillement. Ensuite, on verra que Jonas fait le choix de la fuite. Puis Dieu intervient pour ramener Jonas. Et puis on verra la souveraineté de Dieu qui produit la repentance. Pas dans le cœur attendu, mais Dieu va produire la repentance pour certaines personnes dans ce passage. Alors la parole fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots. « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa miséricorde est montée jusqu'à moi. » Donc Dieu ici, on voit qu'il s'adresse à un personnage qui s'appelle Jonas. Qui est Jonas? Est-ce que Jonas, on en entend parler ailleurs dans la Bible? Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont parlé de Jonas dans la Bible? Ouais, qui? Jésus. Jésus va reprendre. Je n'apporterai pas aujourd'hui le thème de Jonas avec Christ, je le ferai dans une autre des prédications, mais Jésus a repris l'histoire de Jonas. Donc c'est... Il y a de l'importance, il y a quelque chose qu'il faudra qu'on voie dans les prochains messages. Jonas est aussi mentionné dans le livre des Rois, et on mentionne aussi son père, mais on n'en sait pas forcément beaucoup plus. On sait qu'il est originaire d'un village près de Nazareth, on sait ici qu'il est le porte-parole de Dieu, et on sait qu'il a œuvré en Israël. Donc Israël à cette époque est coupé en deux, il y a le sud et le nord d'Israël, et Jonas, lui, il va prêcher dans le nord. Et le nord, il y a pas une bonne nouvelle, c'est que dans le nord, tout le monde est mauvais. Les rois sont jamais bons, et lui va être là. Et il y a un paradoxe c'est important de comprendre ce que je vous dis là par rapport à l'histoire de Jonas, c'est que pendant la période de Jonas, il y a quelque chose un paradoxe de l'histoire d'Israël, du nord d'Israël, c'est que le pays est en paix et en prospérité, mais il y a un problème. ils sont idolâtres et attachés aux choses mauvaises. Et ça, c'est ce qui se passe au temps de Jonas, une pauvreté spirituelle. Et Dieu, qu'est-ce qu'il va faire ? Dieu va envoyer les Assyriens pour juger son peuple dans le but qu'il revienne à lui. Donc, prospérité, paix, tout semble bien, mais on n'a rien à faire de Dieu. On a que des idoles, on pense que aux choses de ce monde. Dieu ne les intéresse pas, en fin de compte. Dieu dit, je veux que mon peuple revienne à moi. Donc, qu'est-ce qu'il fait ? Il utilise une autre nation qui s'appelle les Assyriens pour venir juger et que le peuple puisse dire, Seigneur, on a besoin de toi. Donc voilà un peu le contexte dans lequel vit Jonas. Maintenant, qui est Ninive ? Est-ce que vous savez qui est Ninive ? Est-ce que vous savez à quel pays ou à quelle nation appartient Ninive ? À ce moment-là ? À nos amis les Assyriens. Ninive est la capitale de l'Assyrie. Et Ninive est sûrement l'une des plus grandes villes, un peu on parle des fois de Babylone, hein, mais c'est l'une souvent des plus grandes villes de l'époque. Et cette ville, elle est caractérisée par deux choses, sa méchanceté et son idolâtrie. Ce qui correspond un peu aussi au peuple d'Israël à ce moment-là, méchanceté et idolâtrie. Et je pense que ce n'est pas une ville qui doit être très attirante pour un serviteur de Dieu. Quand tu es israélite et qu'on va te dire d'aller à Ninive, je ne pense pas que ce soit la ville que tu as envie d'aller en premier lieu. Parce que c'était une ville qui était ennemie d'Israël. Les Assyriens détestaient les Israélites. Hein. Donc ça, c'est quelque chose qui est important parce qu'on va voir peut-être des raisons de pourquoi aussi Jonas va fuir, qui ne le justifieront peut-être pas son choix. Mais on pourra peut-être comprendre ça. Donc là, on vient de voir Jonas, on vient de voir Ninive, et Dieu parle sur Ninive, il lui dit « Sa méchanceté est montée jusqu'à moi ». Si vous entendez ça dans la Bible, que Dieu dit « Sa méchanceté est venue jusqu'à moi », qu'est-ce que ça peut sous-entendre derrière ? Qu'est-ce que Dieu risque de faire avec un peuple où Dieu dit « Sa méchanceté est montée jusqu'à moi ». Qu'est-ce que Dieu ferait habituellement ou va faire ? Ouais, il veut les détruire, un jugement. Hein, c'est quelque chose qui semble assez cohérent. Hein. Et on verra dans deux semaines, au chapitre 3, que Dieu, à l'image de Jésus-Christ, aime ses ennemis. Qu'est-ce que va faire Dieu avec ses habitants de Ninive ? Il va les sauver. Et on va voir que le salut n'est pas exclusif à Israël. C'est ça qui est beau. Et c'est ce que Christ a fait avec nous aussi. Et on va voir que même Dieu commence à s'intéresser aux païens dans notre chapitre même 1. Donc, on a Jonas, on a la ville de Ninive, on commence à avoir quelques informations sur cette ville et sur ce que Dieu va faire à cette ville. Mais qu'est-ce que Dieu demande maintenant ? On a Jonas, on a Ninive, on a des informations, mais qu'est-ce que Dieu demande ? Il lui dit, lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Une mission très, très particulière. Mais est-ce que la mission est claire ? Est-ce que pour vous, vous comprenez la mission ? Tout le monde comprend la mission que Dieu donne ici ? Oui ou non ? Est-ce qu'il y a du vocabulaire qui est compliqué dans ce que Dieu est en train de dire à Jonas ? Non. Il n'y a aucune ambiguïté. Tout le monde est en capacité de comprendre ce que Dieu dit. Comme souvent dans la Bible. Hein. Souvent dans la Bible, les choses sont assez claires. Et Dieu donne un ordre à Jonas. Il ne le supplie pas, il ne lui demande pas son avis. Dieu insiste. On ne le voit pas forcément trop en français, mais en hébreu, c'est un peu lourd. Donc, je vous le traduis un peu en version, si c'était un peu lourd. Va-t'en, pars, marche, va. Vous voyez, ça donnerait ça. Ça ferait un peu lourd dans la langue française. Mais c'est l'idée, allez, lève-toi, on y va. Lève-toi, on y va. Puis Dieu lui dit, après lui avoir dit, maintenant tu te lèves, très clair à comprendre. Il lui dit, qu'est-ce qu'il lui dit ensuite ? Il lui dit de se lever, d'aller, et le texte nous dit qu'est-ce qu'il lui demande de faire ? Parce qu'il va falloir qu'il agisse. Qu'est-ce qu'il doit faire maintenant, Jonas ? Crier contre elle. Crier, ou si vous voulez, le mot proclamer. Hein, on peut changer le terme, proclamer, sous-entendu, la parole de Dieu. Donc pas évident à comprendre qu'est-ce que contient ce cri. Hein. Peut-être comme disait Clément, le cri ça va être « Écoute Ninive, ta méchanceté est montée jusqu'à moi, maintenant t'es condamné. » Ou peut-être, est-ce que c'est un cri en train de proclamer « Il faut que vous repentiez. » Mais à ce stade du texte, on n'en sait rien en fin de compte. Nous, on connaît l'histoire, mais à ce stade du texte, on ne sait pas quel est le contenu de ce cri contre elle. Mais en tout cas, ce cri contre elle, Jonas, lui, va bien le comprendre. Sinon, il ne ferait pas demi-tour. Et quand on arrive au chapitre 3, on a le contenu. On va un peu spolier, ok ? Normalement, on ne fait pas ça hein, dans les séries, mais on va spolier un peu, on reviendra en détail sur ce chapitre 3. Mais regardez le contenu de ce cri. Parce que Dieu reprend les mêmes paroles que du chapitre 1 au chapitre 3. Regardez chapitre 3. Il faudra revenir la semaine prochaine pour voir pourquoi il y a eu ce changement. Hein. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois, par rapport à la première qu'on vient de lire, en ces mots. La même chose. « Lève-toi, va à Ninive la grande et proclame-y la publication que je t'ordonne. » Petit changement. « Et Jonas leva et alla à Ninive, selon la parole de l'Éternel. Or, Ninive était une grande ville de 3 jours de marche. » Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche. Il criait et disait, ah, le contenu. Il disait quoi ? Encore 40 jours et Ninive est détruite. Donc, dans ce contenu du cri, il y a bien la notion de destruction. Hein ? Verset 5. Les gens de Ninive crurent à Dieu, ils publièrent un jeûne et se revêtirent de sacs depuis le plus grand jusqu'au plus petit. Donc, on voit ici que ce cri, c'est un cri de jugement, de condamnation. Si vous ne repentez pas, vous allez être condamné et mourir. C'est très clair. Hein, pas besoin d'avoir un bac plus 15 pour comprendre ce qu'il est en train de dire ici. Mais le fruit de ce cri, c'est quoi ? C'est la repentance. Le fruit du cri, de la proclamation de Jonas, c'est un peuple qui dit « Ok, on se tourne vers Dieu. On se tourne vers Dieu. » Vous savez, Jonas, c'est le jugement et la grâce. Ça va ensemble. On ne peut pas dissocier le jugement et la grâce. Ceux qui voient que Dieu comme un juge, ils se trompent. Ceux qui voient un Dieu qu'avec la grâce et l'amour, ils se trompent. C'est déséquilibré, on appelle ça dans la Bible. On a un Dieu qui est juste, qui apporte des jugements, et un Dieu qui fait grâce. Il doit annoncer la destruction de Ninive, mais dans quel but ? En vue de son salut. Et je crois qu'aujourd'hui, rien n'a changé. La grâce de Dieu est accordée à tous les hommes, autant aux prophètes de Dieu qu'aux ennemis de Dieu et de son peuple. Jésus finit avec quel passage ? Quelle parole ? Il finit avec quoi en Matthieu 28 ? Qu'est-ce que Jésus dit à ses disciples ? Quelle est leur mission ? Allez, faites de toutes les nations des disciples. Mais il va falloir leur proclamer quoi ? Qu'ils sont perdus. Il va falloir proclamer qu'ils ont besoin de se repentir. Et c'est notre mission à nous. Allez vers les gens et leur dire, écoute, tu as besoin de te repentir. Parce que pour l'instant, tu es condamné. Tu as besoin de te tourner vers Dieu. Et voilà le message que devait faire Jonas, partir dans une nation qui était ennemie à Israël et leur dire, mes amis, vous êtes perdus et vous devez vous tourner vers le Dieu de votre salut. Quelle va être la réaction de Jonas ? Quel est le choix de Jonas ? On continue. On continue notre texte. Verset 3. Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Mes amis, en une phrase, tout est dit. Pas besoin, là encore une fois, d'avoir beaucoup de connaissances. Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Tout est dit ici. Il continue, il dit, il descendit à Jaffo, il trouva un navire qui allait à Tarsis, il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Jonas connaît la volonté de Dieu, mais il refuse d'obéir. On a vu, l'ordre de Dieu, il est simple. La réponse de Jonas est simple aussi. Est-ce que vous connaissez d'autres personnes dans la Bible, comme Jonas, qui ont refusé d'obéir à la mission divine ? Est-ce que vous avez des personnages qui viennent en tête, que vous connaissez, qui ont, comme Jonas, ont dit « Non, c'est pas pour moi ça. » Moi, un ou deux. Moïse. Oh, Moïse. Pourtant, Dieu a travaillé son cœur. A travaillé son cœur et l'a amené à cette mission. D'autres personnages que vous connaissez. Ah, pas pour moi ça. Moi, pour l'autre côté. Gédéon. Ça vous parle? Même Jérémie. Jérémie. Donc on voit que ce n'est pas exclusif non plus à Jonas, hein, cette histoire. Mais Jonas va faire quelque chose de très pertinent. Pertinent, je ne sais pas si c'est pertinent, c'est peut-être pas pertinent, mais de particulier. Il exprime par sa fuite une opposition non-verbale à Dieu. Il ne parle pas à Dieu. Il ne parle pas. Vous savez, un geste parle souvent plus que des milliers de mots, voire même c'est plus méprisant. Comme par exemple, quand quelqu'un te parle et puis tu fais... Mais tout le monde a compris ce que ça voulait dire. Hein. Personne n'a parlé. Hein, lever les yeux au ciel en signe de mépris. Et un exemple, c'est nos enfants. Nos enfants peuvent nous tourner le dos, sortir en claquant la porte, faire une fugue sans mots pour manifester leur désobéissance et leur mécontentement. Pas de mots, pas besoin de parler. Juste l'action démontre la désobéissance et le mécontentement. Et en quittant la terre promise, en fuyant à Tarsis, Jonas tourne le dos à l'Éternel et lui exprime un désaccord profond, en fin de compte. Parce qu'est-ce qu'il aurait pu rester en Israël? Ne pas être d'accord et rester en Israël, Jonas? Bien sûr que oui. Pourquoi avoir besoin de partir à l'opposé de où il lui demande? Pourquoi vouloir partir avec des païens dans un bateau? Pourquoi même vouloir acheter sa fuite? Tu restes en Israël, tu es tranquille, tu peux désobéir à Dieu, mais tu restes en Israël comme tout le reste de ton pays en ce moment même. Mais Jonas ne refuse pas simplement la mission divine, il veut exprimer profondément son désaccord. Il a envie de montrer à Dieu, je ne suis absolument pas d'accord. Il est prêt à quitter ses proches, sa terre natale, le pays promis. Il est prêt à faire tout ça pour exprimer à l'Éternel combien ce projet lui déplaît. Ça va loin, hein? Comment le cœur humain est capable de se révolter contre la volonté de Dieu. Alors qu'il est, le paradoxe c'est que c'est un serviteur qui est appelé par Dieu pour une mission. Ça peut nous arriver, n'est-ce pas? On ne va peut-être pas parler à Dieu, on ne va jamais lui dire qu'on n'est pas content avec lui verbalement. Jamais, voire rarement. Mais nos choix, nos attitudes non-verbales peuvent montrer les mêmes attitudes que Jonas dans notre vie. Alors Jonas, qu'est-ce qu'il fait? Il descend à Jaffo. Alors Jaffo, qu'est-ce que c'est cette ville? Si vous savez où est Tel Aviv, c'est un quartier de Tel Aviv aujourd'hui. Ok, hein, un peu, c'est la culture générale ça. Et qu'est-ce qu'il fait là-bas? Il se trouve en présence de païens qui vont dans une ville à Tarsis. On ne sait pas trop ce que ça veut dire Tarsis. Certains pensent que c'est une ville en Espagne, d'autres non. Donc en tout cas, on sait que c'est une ville qui ne va pas dans le bon sens. Il ne va pas dans la direction voulue qui serait Ninive. Et donc l'intention de Jonas est de s'enfuir, s'échapper, se retirer de l'ordre de Dieu. Jonas ne veut pas fuir des hommes, mais Dieu. À deux reprises, si vous faites attention, il dit « Je veux fuir la face de Dieu ». Comment c'est possible? Comment c'est possible de fuir la face de Dieu? C'est fou comme raisonnement. Hein? Il va même jusqu'à dire « Allez, je paye le transport et je m'en vais ». Il paya le prix du transport. Il croit que par ses propres moyens ou forces, fuir loin du Dieu puissant est possible. Créateur de l'univers, celui qui voit tout, qui contrôle tout, qui sait tout. Et lui, il croit qu'il peut fuir loin de la face de l'Éternel. Mes amis, quand on a un cœur révolté, on ne voit plus clair. On n'agit pas clairement. Et Jonas, c'est ce qu'il est en train de faire ici. Pourtant, il va dire, hein, plus tard dans le même chapitre, que Dieu est le créateur de tout, qui soutient tout. Mais là, amnésie, hein, surprenant de la part d'un prophète, surprenant d'un homme que Dieu a choisi de parler comme ça. Où que nous allions, où que j'aille, Dieu sera là. Il est là, mais dans les moments les plus sombres de ta vie, de tes pensées, où que tu sois, Dieu est là. Tu ne peux rien lui cacher. Tes mensonges, tu ne peux pas lui cacher. Hein. Et ils te rattraperont toujours. Hein. Ça, j'ai appris une chose. Les mensonges nous rattrapent toujours. Certains utilisent cette expression. Le mensonge prend l'ascenseur. La vérité prend l'escalier. Mais à un moment donné, la vérité et l'ascenseur vont se retrouver au même palier. Et il ne faut pas que ce soit au palier trop, parce qu'après ça fait vraiment des dégâts, quand le mensonge est révélé tardivement. Plus c'est révélé tardivement, plus mes amis, ça fait des dégâts. La désobéissance commence souvent par un choix volontaire de suivre notre propre volonté plutôt que celle de Dieu. Et la volonté de Dieu, C'est pas de savoir avec qui je vais me marier, pas de savoir quel travail je vais avoir, pas savoir si je dois aller dans telle maison, pas savoir ça. La base de la volonté de Dieu, c'est l'obéissance à la parole. Nous, des fois, on veut comprendre qu'est-ce que la volonté de Dieu. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. 1 Thessaloniciens. Si vous cherchez les mots de ce que Dieu veut notre sanctification. La sanctification, c'est obéir à ce que Dieu dit. Commencez par ça, et le reste va devenir un peu plus clair au fur et à mesure que vous allez avancer dans votre vie. Mais déjà, le premier pas de la volonté de Dieu, c'est de lui obéir dans ce que je sais de lui et de ce qu'il dit dans sa parole. Ça, c'est la base. Le reste, ça va venir. Alors la grande question, pourquoi Jonas ne veut pas aller à Nénive? Qu'est-ce qui le dérange au point de désobéir? Il y a quelque chose au fond de lui quand même qui doit le déranger pour désobéir. Et on n'a aucune réponse en fin de compte. Alors certains ont supposé la peur, hein, parce que c'est comme aller annoncer ce qu'il lui demande Dieu, on l'a vu en introduction, c'est comme si tu partais en Afghanistan ou en Corée du Nord là. Hein. Quand il lui dit de partir à Ninive, ce sont les gens qui sont venus déjà faire du mal à Israël et qui ont la haine contre Israël. Donc c'est comme toi, en tant que chrétien, tu vas en Afghanistan, tu vas en Corée du Nord et tu dis, écoutez, vous êtes tous perdus, vous avez besoin de Jésus-Christ pour votre salut, vous êtes tous condamnés, vous allez tous mourir. Il est fort possible que vous n'avez que 2-3 minutes, soit pour survivre, soit pour être emprisonné. N'est-ce pas? Donc peut-être la peur d'aller dans cette ville-là. Peut-être la colère et l'amertume aussi. Pourquoi? Les Assyriens ont peut-être tué des personnes de la famille de Jonas, ou simplement des gens qui ont été, ou même lui peut-être a été touché par ça. Ou peut-être juste un côté nationaliste. Je ne veux pas approcher des non-juifs. Des fois, ça peut être pareil pour nous. Hein. Moi, je ne vais pas aller annoncer l'évangile à des gens qui sont d'une communauté différente de la mienne. En tout cas, on n'a pas de réponse claire. Mais quelles que soient les réponses légitimes, Jonas désobéit. Il ne fait pas confiance à Dieu. Il ne fait pas confiance à Dieu. Il est en train de dire à Dieu, en fin de compte, la mission que tu me donnes, en fin de compte, ce n'est pas possible. En fin de compte, il est en train de juger Dieu lui-même. Il est en train de dire à Dieu, ce que tu es en train de me demander, ce n'est pas possible. Donc moi, je m'en vais. Je vais de l'autre côté. Quand on lit le chapitre 4, Jonas avait compris que cet appel était une démonstration visible de la miséricorde de Dieu. Regardez, encore une fois, je spolie, hein, mais on reviendra au chapitre 4 dans quelques semaines. Au chapitre 4, au verset 1, il dit, alors que Dieu vient de sauver des milliers, des milliers, des milliers de gens, regarde ce que Jonas dit, cela déplut fort à Jonas, il fut irrité. Des milliers de gens viennent d'être convertis, viennent de se tourner vers Dieu. Il implora l'Éternel et il dit, « Ah, Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays ?» Donc on est encore au chapitre 1. « C'est ce que je voulais prévenir en fuyant à Tarsis, car je savais que tu es un Dieu compatissant, miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et que tu te repens du mal. » Mes amis, un vrai chantier dans le cœur de cet homme. Mais cet homme est... Qui est Jonas, c'est toi et moi, en fin de compte, dans des sphères différentes de nos vies. Chapitre 1, Jonas fuit. Il fuit, Jonas, au chapitre 1. Ouais, je veux pas avoir le truc. Il fuit. Son cœur est révolté contre Dieu. Chapitre 2, il va se repentir. Chapitre 3, il va l'annoncer, la parole. Il va faire ce que Dieu lui demande. Chapitre 4, on vient de lire ça. Tu es un Dieu compatissant, miséricordieux, lent à la colère, riche en bonté. Elle est bonne sa théologie. Elle est bonne la théologie de... Mais il y a un décalage avec sa vie là. De voir Dieu exercer sa grâce et sa miséricorde sur des personnes qui, lui, ne jugent pas justes, reste dans le cœur de Jonas une lutte, une difficulté, une incompréhension. Comment un Dieu qui est bon, qui est saint, qui aime Israël, qui aime les Juifs, comment ce Dieu-là peut-il sauver des gens qui détestent Israël, qui veulent faire du mal à Israël, qui veulent détruire les Juifs? Comment est-ce possible cette nation qui est cruelle, les Assyriens, Ninive, qui a des idoles partout, comment c'est possible? En fin de compte, Jonas est en train de se mettre au-dessus de Dieu, en train de dire, moi je sais mieux qui doit être sauvé. Je sais mieux qui doit entendre l'évangile que toi, Dieu. Dieu veut œuvrer dans le cœur de Jonas. Dieu veut que Jonas accomplisse cette mission. Je crois que Jonas est sur la bonne voie dans tout ce processus du chapitre 1 au chapitre 4. On le verra la semaine prochaine. Mais il avait besoin d'apprendre à connaître Dieu selon Dieu, pas selon lui. Des fois, on se crée un Dieu qui n'est pas le Dieu de la Bible. On dit des choses sur Dieu qui n'est pas scripturaire non plus. Dieu voulait que Jonas comprenne qui est réellement Dieu. Dieu voit la désobéissance de son serviteur, mais Dieu, il est bon, miséricordieux. Tout ce qu'il a dit, il ne l'abandonne pas. En fin de compte, tout ce que est presque en train de reprocher Jonas à Dieu en exprimant des vérités, c'est ce que Dieu va faire avec Jonas, en fin de compte. Dieu va exprimer sa miséricorde, sa bonté. Parce que là, Jonas, quand il s'en va dans l'autre sens, Dieu aurait pu dire, écoute, c'est fini avec toi, allez, on n'en parle plus, j'en prends un autre. Dieu est capable de faire ça. Mais Dieu, il a dit, je ne t'abandonne pas, Jonas. Parce que c'est toi que j'ai choisi. Et l'objectif de Dieu est de ramener Jonas dans sa volonté afin que Dieu soit glorifié. Et vous savez, Dieu, il fait pareil avec toi et avec moi. Dans ces moments de révolte de notre cœur, non verbal des fois, notre façon de vivre et d'agir dans nos pensées, Dieu il dit, écoute, j'en ai pas fini avec toi, je t'abandonne pas, je vais venir te chercher. Mais comme on l'a vu en introduction, la désobéissance a des conséquences aussi. Mais je viens quand même te chercher. Et ça, c'est la suite. Dieu intervient pour ramener Jonas au verset 4 à 13. Donc, verset 4 à 13, on revient dans Jonas. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux, il se leva sur la mer, une grande tempête, le navire menaçait de faire naufrage. Ok, Jonas, tu réponds d'une manière non verbale, je vais répondre d'une manière non verbale. Je t'ai parlé, tu n'as pas écouté, tu n'as même pas voulu échanger avec moi, tu as voulu faire ton rebelle partir dans l'autre sens, pas de problème, moi je ne te parle plus. Par contre, maintenant j'agis, de manière non verbale aussi. Et je montre, en utilisant la tempête, en voir les marins et aussi la conscience de Jonas, que Dieu est le maître de la situation. Dieu maîtrise tout, mes amis. Et il envoie une tempête. Il est maître de la nature. L'Éternel fait lever ou souffler. La tempête là va changer la donne ici. Et tout bascule en quelques minutes. Tout bascule en quelques minutes. Lui, il est sur son bateau, il l'a acheté, il part. Son plan, il a tout calculé. Boum, la tempête, personne ne l'a vu arriver. Ça arrive pas ça des fois dans nos vies? On planifie tout, tac, 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 et d'un seul coup, boum! Et tout bascule, tout change. Et on n'a l'abri de rien, mes amis. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Et quand Dieu le fait pour nous, c'est pour nous faire nous arrêter, nous faire réfléchir et revenir à lui. Mais le problème, c'est que la désobéissance de Jonas impacte d'autres personnes. Notre désobéissance à Dieu, ce n'est pas que nous, mes amis. Jamais, ça, il ne faut pas croire ça. Quand on désobéit à Dieu, on impacte toujours des gens autour de nous. On embarque toujours malheureusement des gens autour de nous. Et là, ceux qui sont impactés, c'est les marins, ils n'ont rien demandé, eux. Les marins eurent peur, ils implorèrent chacun leur Dieu, ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur leur navire afin de se le rendre plus léger. Jonas, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il descend au fond du navire, se couche et s'endort. Des hommes qui ont l'habitude, c'est leur métier, la mer. Ils ont l'habitude des tempêtes. Mais celle-là, elle est particulière. Celle-là, elle leur fait peur. Il y a quelque chose qui se passe dans cette tempête où ils se disent, les gars, là, on va y passer. On va pas survivre. Ils sont effrayés. Il y a quelque chose d'anormal, d'inhabituel. Parce que Dieu intervient. Et quand Dieu intervient, il y a souvent des choses, des fonctionnements qui sont inhabituels. Et leur peur va les amener à faire quoi? Qu'est-ce que vont faire ces hommes qui sont aussi, on voit que l'être humain est, quel qu'il soit, est toujours un aspect religieux au fond de lui, hein. Même le plus grand des athées a toujours une forme de religiosité en lui. Hein. Qu'est-ce qu'ils font, eux? Qu'est-ce qu'ils vont faire, ces hommes? Le texte nous dit quoi? La première chose qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font? Allez-y. Ils prient. Ils invoquent leur Dieu. Ils invoquent leur Dieu. Je ne sais pas comment ils en avaient, mais ils invoquent leur Dieu dans le but que ça se calme la tempête. Ça, c'est la première chose qu'ils font. Le problème, c'est que ça ne fonctionne pas trop. Donc la deuxième chose qu'ils font, et là, plus terre à terre, plus factuel, qu'est-ce qu'ils font? on va alléger le bateau. Hein. Donc peut-être ils vont peut-être jeter leur gris-gris même. Hein. Leur statuette qu'ils avaient peut-être, ils disent, bah, même ça c'est trop lourd, on le jette. Donc là, la peur est tellement grande qu'ils vont jeter, se débarrasser de tout ce qui les encombre et qui risque de faire couler le bateau à cause du poids. Ce qui est incroyable dans ce verset, si je ne sais pas si vous faites attention, c'est que d'un côté, il y en a qui sont en panique totale, ils crient à leur Dieu, ils jettent tout, et de l'autre côté, il y a un homme qui s'appelle Jonas. Qu'est-ce qu'il fait lui? Il va où? Lui va dormir. Lui va dormir. Il va profondément dormir. Ma question, c'est comment est-ce possible? Comment est-ce possible? Alors, le chef du bateau, le capitaine, il ne voit plus de solution car ses dieux ne répondent pas. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va voir Jonas. Il va aller le réveiller. Il va lui donner l'ordre de se réveiller et que lui aussi, ben, il prie son Dieu. On n'a pas le même, donc prie ton Dieu, peut-être c'est le tien qui va peut-être agir. Et cet homme savait que Jonas croyait dans le Dieu d'Israël, parce que le texte nous le dit. Il savait aussi pourquoi Jonas était parti. Mais tant qu'il n'y avait pas de conséquences, tant que rien ne bougeait, tout le monde s'en fichait de ça. Le voyage aurait pu se passer très bien, sans qu'on vienne se soucier que Jonas est juif, que Jonas croit au Dieu qui est l'Éternel. Mais là, il y a quelque chose qui vient interpeller tout le monde. Et Dieu utilise, mes amis, parfois des païens pour nous réveiller. Ici, Dieu va utiliser des païens, un non-juif, pour réveiller la conscience physiquement et la conscience de Jonas. Tu dis que tu crois au Dieu de la Bible? Alors montre-le-nous. Alors montre-le-nous. Où est ton Dieu? Je ne sais pas si vous avez déjà été repris par des païens, des non-chrétiens sur votre attitude et vos comportements. Mais Dieu utilise aussi ces hommes-là, ces femmes-là, pour nous reprendre, pour nous corriger. Alors Jonas, qu'est-ce qu'il fait? Pas de réponse. Il ne répond pas, lui. Hein. Lui, il continue. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire quelque chose qui est très habituel dans les pratiques païennes. Ça ne veut pas dire que c'est des choses qu'il faut faire, il faut en tant que croyant, parce qu'ils voulaient savoir qui est le fautif. Alors ils vont faire... Hein, ils vont en implorer un peu le sort. Et dans sa souveraineté, Dieu contrôle tout. Même s'il n'est pas favorable à ça, ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas intervenir là-dedans. Il va faire en sorte que le sort tombe sur Jonas et que les marins comprennent que le problème, c'est Jonas en fin de compte. C'est la désobéissance de Jonas qui les emmène dans cette galère-là. Et notre désobéissance peut emmener des fois beaucoup de gens dans la galère. Et là s'enchaîne le poste de police. Hein, moi, j'appelle ça l'interrogatoire. Verset 8. Ils dirent, dis-nous, qui nous attire ce matin? Quelles sont tes affaires? D'où viens-tu? Quel est ton pays? De quel peuple es-tu? Là, à mon avis, ils doivent le secouer, parce que là, tout le monde est en panique. Hein. Tu vas parler, tu vas nous dire les choses. Jonas, lui, il va commencer à s'exprimer un peu. Alors, il va leur répondre. Il va être honnête. Je suis hébreu. Je crains l'Éternel. Ah bon? Et le Dieu des cieux, celui qui a fait la terre et la mer. Il donne son identité, il reconnaît que Dieu est son Dieu, qu'il est puissant et maître de tout. C'est une vraie confession de foi. Mais ma question, c'est comment comprendre cette réponse? Comment tu peux dire que tu crains Dieu alors que tu es rebelle à lui sans lui parler et tu pars de l'autre côté? Comment tu peux dire que tu crains le Créateur alors que tu fais tout l'inverse? Tu es en pleine contestation avec lui. Ça, mes amis, c'est le paradoxe de nos vies. C'est le paradoxe de ma vie. Oui, je crains l'Éternel. Oui, je crois que Jésus-Christ est mort et ressuscité à la croix. Oui, je crois que tout ce que la Bible est vrai. Mais oui, mon cœur peut être révolté de manière non-verbale à Dieu. Jonas est un homme qui connaît et qui aime l'Éternel. Je ne lui enlève absolument pas ça dans l'Écriture. Jonas sera dans l'éternité avec nous. Jonas aime Dieu, mais aussi un homme qui ne veut pas accepter de soumettre un aspect du plan de Dieu pour sa vie. Et ça, c'est toi et moi, en fin de compte. Ça, c'est nous. C'est sûr que c'est un paradoxe, mais On le sait tous, quand on a été sauvé par Christ, on aime Dieu, mais on sait qu'on est tiraillé par des choix, des fois que Dieu nous dit c'est là, et nous on ne veut pas, et on veut aller dans l'autre sens. N'est-ce pas? On retrouve cela dans la relation avec nos enfants. Nos enfants nous aiment. Mais ils peuvent partir dans l'autre sens de manière non verbale. Et pendant ce temps, pendant tout cet échange, la tempête s'intensifie. Ça ne se calme pas, ça devient de pire en pire. Et les marins sont de plus en plus désespérés et sous pression. Alors les marins vont être des gentlemen, des hommes avec un grand respect de la vie. Ils vont lui demander qu'est-ce qu'il doit faire de lui au lieu de prendre l'initiative d'eux-mêmes de le balancer à l'eau. C'est ce que le texte dit, hein. Ils ont une crainte de ce que Dieu, que c'est Dieu qui ait déclenché cette tempête. Parce que lui dit, prenez-moi et jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous, car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. Qu'est-ce que font les marins, verset 13? Ces hommes ramaient pour gagner la terre, mais ils ne purent parce que la mer s'agitait toujours plus contre eux. Ils rament. Ils veulent sauver Jonas. C'est incroyable. Ils veulent ramer pour revenir sur la côte, pour sauver tout le monde. Mais ils n'ont pas compris que leurs efforts sont vains, car ils n'arriveront pas à regagner la terre. Parce que ce n'est pas ce que Dieu veut. Il veut que Jonas plie le genou. Plie le genou. Et Jonas, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il persévère dans son endurcissement. Alors que dans sa grâce, Dieu est venu par la tempête, par les marins, dans le but de le ramener à lui. Les épreuves de la vie, qui sont des fois douloureuses, qu'il faut toujours bien examiner, sont parfois, même souvent, pour traiter un domaine de notre vie, pour nous ramener à lui. Et Jonas, lui, il balaye tout ça. Il est même encore plus irrespectueux à l'égard de Dieu. Il préfère la mort que d'obéir à Dieu. C'est violent, hein? Mais Jonas, encore une fois, il pense qu'il est au contrôle des choses. Il a oublié que c'est Dieu qui décide du jour de sa mort, pas lui. Pas lui. Il pense même que quand il va être jeté dans l'eau, que c'est fini l'histoire avec Dieu. Mais Dieu va encore le rattraper, on le verra la semaine prochaine. Parce que Dieu veut le ramener à la repentance pour l'emmener dans un but bien précis. Parce que Dieu n'abandonne pas son serviteur. Eux, ils sont prêts à se battre, ces marins, pour qu'ils vivent. Et lui, il n'a pas hésité de mettre la vie de ses hommes en danger à cause de sa désobéissance. C'est fou, hein? Des fois, c'est comme ça, hein? Il y a des gens qui se battent pour qu'on revienne à l'obéissance, et nous, on continue à aller dans l'autre sens. Vraiment de l'égoïsme, de l'ingratitude. Vous savez, Dieu, dans sa grâce, j'ai noté, utilise les circonstances difficiles pour attirer notre attention et nous ramener à lui. Alors soyons attentifs et ne persévérons pas dans l'endurcissement comme Jonas dans ce chapitre. Allez, je finis avec le chapitre, le dernier point. Hein. La souveraineté de Dieu produit la repentance et sa gloire. Alors, qu'est-ce que vont faire ces marins? Regardez, c'est magnifique. Jamais on n'aurait cru ça au départ. Jamais ces gars, le matin où ils sont levés, ils se sont dit, à la fin de la journée, on va se tourner vers le Dieu d'Israël. Jamais. Mais Dieu, dans sa grâce, dans les circonstances, il peut travailler des cœurs de manière différente. Il avait le but de ramener Jonas. Ce n'est pas un échec, ça va continuer. Mais il avait aussi l'objectif de commencer à œuvrer dans le cœur des non-juifs. Regardez ce qu'ils vont dire, ces hommes-là. C'est Jonas qui aurait dû dire ça. Alors ils invoquèrent l'Éternel et dirent, « Ô Éternel, ne nous fais pas périr à cause de la vie de cet homme et ne nous charge pas du sang innocent, car toi, Éternel, tu fais ce que tu veux. » Sacrée confession de foi, hein? « Car toi, l'Éternel, tu fais ce que tu veux. » Vous savez, la beauté dans la souveraineté de Dieu, plus on grandit dans la connaissance de Dieu et dans notre relation avec Dieu, on voit que dans sa souveraineté, dans une même circonstance, on voit que Dieu peut sauver d'un côté et continuer à laisser l'autre plonger plus bas. Incroyable, hein? Les marins et Jonas sont face à la même circonstance. Et des cœurs inattendus qui s'ouvrent et un autre qui continue à se fermer. Et ça, c'est pareil aujourd'hui, dans des mêmes circonstances de vie, dans une famille, dans un couple ou autre. Des cœurs peuvent s'ouvrir, se repentir, et d'autres peuvent s'endurcir. Rien de nouveau sous le soleil, mes amis. Toujours pareil. La conduite de ces hommes est marquée par leur crainte et par leur grand respect à Dieu à ce moment-là. Ce chapitre 1, là, la fin de ce chapitre 1, je ne sais pas si ça vous fait penser à une autre histoire dans la Bible, mais qui, à mon avis, sont en train de précéder la venue du Christ. Christ, il arrive en Israël. Qui aurait dû croire en lui? Qui aurait dû se soumettre, obéir à sa volonté? Qui aurait dû le reconnaître quand Jésus est venu? Les Juifs, les chefs religieux, ceux qui avaient la connaissance de lui, n'est-ce pas? Mais la plupart ont persévéré dans quoi? Dans l'endurcissement. Mais Christ a fait quelque chose d'extraordinaire. Il a ouvert la porte aux nations, aux non-juifs. Et les Juifs, dans le Nouveau Testament, ont commencé à expérimenter la crainte de l'Éternel, ce que nous sommes aujourd'hui au bénéfice, nous, les non-juifs. Et c'est là qu'on voit que Dieu déjà prépare une ouverture aux nations. Dieu est en train de préparer tout doucement que l'Évangile va être ouvert aussi aux nations et pas qu'au peuple juif. Est-ce que Dieu en a fini avec Jonas? Il le jette dans l'eau? Absolument pas. Mais pour ça, il faudra revenir la semaine prochaine pour voir l'épisode 2 dans Jonas 2, parce que la tempête cesse, mais la relation entre Jonas et Dieu, elle continue. Elle continue. Alors notre désobéissance, il faut bien savoir, ne pourra jamais empêcher Dieu d'accomplir ses desseins et de révéler sa gloire. Mais notre désobéissance a des conséquences. Mais notre désobéissance ne changera jamais le dessein de Dieu. Allez, deux applications pour finir. Hop, ça je finirai avec. Deux applications. La première, répondons rapidement à l'appel de Dieu. Ça, c'est la première chose qu'on peut repartir. Hein? Y a-t-il un domaine où je sais ce que Dieu attend de moi ce matin, mais où je tarde encore à obéir? Ok, ça c'est peut-être la première application par rapport à ce texte. Y a-t-il un domaine où je sais ce que Dieu attend de moi, mais où je tarde encore à obéir? Hein? Je ne le dis pas verbalement, mais mes attitudes font ça. Et je suis en lutte. Est-ce que j'aime Dieu? Oui. Est-ce que je veux servir Dieu? Oui. Mais je suis en lutte avec ça. Et la deuxième application, faisons confiance à Dieu au lieu de fuir. Il y a peut-être des tempêtes de vie qui vont arriver ou qui sont dans notre vie et elles sont l'occasion de revenir à Dieu. Alors je vous encourage à vous approcher de lui avec repentance et confiance, de ne pas s'endurcir. Des fois, réexaminer notre marche avec Christ à la lumière de la parole. Ça, c'est important. Et je finis avec ce que j'avais marqué en introduction. Lorsque Dieu nous demande d'obéir, nous ne devons pas retarder notre réponse. Il est essentiel de faire confiance à Dieu plutôt que de chercher à fuir sa présence et son plan pour notre vie. Vous le savez, il est impossible d'échapper à Dieu. Impossible de vouloir échapper à Dieu. La meilleure réponse à l'appel de Dieu est une obéissance immédiate, humble et confiante. Hein, le prophète Ésaïe a dit, « Seigneur, me voici, je veux te suivre et t'obéir. » C'est ce que Jonas fera au chapitre 2. C'est ça la bonne nouvelle. Jonas fera ça au chapitre 2. On va prier, puis on va conclure par la louange. Seigneur, merci encore pour ta parole. Seigneur, pardonne-moi parce que il y a des jours, des semaines où mon attitude ressemble à celle de Jonas. Alors c'est sûr, tu ne me demandes pas d'aller annoncer l'évangile à tel endroit. Mais l'idée, le contenu que tu veux nous faire ressortir, c'est que quand tu nous parles, quand tu nous donnes des ordres, quand les choses sont claires, que nous puissions y obéir rapidement et ne pas avoir une réponse non verbale, mais que notre attitude traduise une rébellion, un mécontentement à ton égard. Aie pitié de nous, pardonne-nous. Tu sais que si nous sommes tes enfants, tu sais qu'on t'aime, tu sais qu'on a envie d'avancer et on a besoin de ton aide. Que ton Saint-Esprit nous reprenne, que les circonstances de la vie nous corrigent, que les gens autour de nous, païens ou chrétiens, aussi nous aident. On a tellement besoin. Et ça, parce que tu nous aimes. Tu ne veux pas nous abandonner. Tu veux notre bien, Seigneur. Merci encore de ta grâce et de tes bienfaits au quotidien. Au nom de Jésus-Christ. Amen.